Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Claude, ce matin, on parle d'une jeune fille.
Que nous raconte Le Monde, âgée de 14 ans, les yeux rouges injectés de sang, qui s'est glissée en mars dans la voiture d'un homme et lui a dit « Sauve-moi ». Cela se passait à Boutcha, la ville ukrainienne alors occupée par les Russes, où l'homme Konstantin Gudauskas bénéficiait d'une fragile immunité. Étant d'origine lituanienne et kazakh, il pouvait louvoyer parmi les occupants. Il amenait de la nourriture aux habitants et parfois évacuait vers Kiev des femmes, des vieillards, des enfants. Ce jour de mars, il a jeté une couette sur la fille aux yeux de sang. Elle sortait d'une cave où pendant 10 jours, elle avait été violée par des soldats devant sa mère qu'ils avaient fini par tuer. Les soldats étaient ivres, elle s'était sauvée. Du pays européen où elle se répare, elle a parlé à Konstantin et lui a dit « Je prie pour toi ». Et ainsi, un juste, qui chez lui au Kazakhstan militait pour les droits de l'homme, vient incarner l'apostrophe du philosophe ukrainien Konstantin Sigov dans l'opinion « Pour notre liberté et la vôtre ». C'est, dit-il, le vieux cri des Polonaises et des Ukrainiens au temps où les tsars de Russie étaient les oppresseurs. Sigov nous parle aussi de notre poème d'Éluard, « Liberté », écrit sous la résistance, et de son fils à lui qui guide en Ukraine des journalistes français. Dans le Figaro magazine, vous verrez une héroïne aux yeux vides, le corps marbré de plaies, le front ceint d'un bandeau. Mais sur sa peau est couchée Victoria, 3 semaines, qui tète sa maman Olga, qui l'a sauvée en se jetant sur elle quand un missile russe a frappé leur immeuble. C'est une des histoires qui ne vont pas vous lâcher quand le Figmag raconte la guerre des femmes en Ukraine. Cela parle de la peur du viol et de l'absence de peur aussi. Voilà Tetiana Chernovol, dont le mari est mort en 2014 au Donbass. Il était beau, non, dit-elle en montrant sa photo. Elle est devenue députée nationaliste et quand la guerre a menacé, elle s'est engagée. Elle sait manier les armes anti-chars. Elle a détruit, dit-elle, 2 tanks russes. C'est plus facile que de viser des jeunes gens. Face aux chars, elle imagine qu'elle combat des dragons. Ce n'est pas fou en soi.
Et on parle aussi d'un couple.
Encore des combattants, mais cette fois de notre France en paix. Ils n'en sont pas moins magnifiques dans Libération. Elle, jeune femme blonde au corps affûté, dont le mince bras sculpté caresse le crâne de son homme barbu, bloc de virilité qui fait 3 fois son poids, car je lis qu'elle pèse 42 kilos et lui quelques 120. Il est Jérôme Le Banner, Golgoth Normand, légende française du kickboxing qui désormais s'adonne au MMA. Elle est Coralie Camilli, corse et docteur en philosophie, nietzschéenne qui a connu Zarathoustra à 15 ans avant de translater vers le Talmud et qui, après avoir maîtrisé les armes de l'esprit, a conquis celle du corps, d'abord l'aïkido, désormais le kick qu'elle débute en compétition ce dimanche. Camilli et Le Banner sont un couple, ils vont se marier, je voudrais croire à l'hérédité et connaître leurs enfants. Dans l'équipe, vous rencontrez Martin Bankole, un fils de roi chez lui au Congo-Kinshasa, mais qui a renoncé à régner après son père pour devenir un boxeur de 127 kilos aux gestes imprévisibles. Oh, crochet qui parle de la hanche. Il affronte demain notre Tony Yoka, dont le père vient aussi du Congo. L'entraîneur de Bankole est un mage écossais qui dit de son poulain « Martin est plein de compassion, mais sur le ring, il devient un animal, l'animal Bankole, par son humanité, et végétarien. »
Et on parle enfin de barrières.
À l'abri desquelles des Français pénétrés de leurs convictions se prémunissent des autres. C'est une enquête de Marianne sur notre pays émietté. Savez-vous que dans nos campagnes poussent des communautés d'identitaires qui veulent vivre entre blancs, mais aussi des tentatives de phalanstères salafistes ou antivax ou ultra-gauchistes. On trouve même à la Bénisson Dieu, joli village, joli nom dans la Loire, un hameau investi par des familles catholiques et écolos qui partagent jardins et champs grégoriens et disent qu'elles ne se coupent pas du monde, mais au contraire, s'y ressourcent. Loin de cet idéal, j'apprends dans le magazine des Échos que des réseaux criminels saisissent en esclavage les migrants qui parviennent à rejoindre l'Angleterre, où l'on a sauvé des enfants vietnamiens enfermés dans des fermes à cannabis. J'apprends dans le Dauphiné que désormais l'ascension de l'Himalaya est un commerce. On vous organise l'Everest à 200 000 euros avec Wi-Fi optionnel au camp de base. Le corps va-t-il connecter ? Après cela, vous lirez dans Le Monde la protestation de supporters du Red Star renforcée par M. Mélenchon et Mme Despentes qui refusent que leur club populaire soit acheté par un fonds américain. Je lis aussi dans La Voix du Nord que ArcelorMittal va embaucher massivement 530 postes à Dunkerque, Madric, Mardic et Dèvres. Il n'y a peut-être rien ce matin d'aussi déterminant.
Merci Claude pour cette revue de presse.